tu donnerais tes organes, toi?
Ah ben, sans problème.
Même ton cœur?
Ah non, pas le cœur.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau?
Nouveau.
Ce soir.
Je devrais essayer avec une voix pareille.
Ça marche bien.
Ça marche bien. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au nouveau rendez-vous, le magazine en deux temps et à deux vitesses. L'actualité et la musique live en première partie et les archives extraordinaires de France Inter en deuxième heure. L'actu ce soir croise la rentrée littéraire avec le nouveau livre de Nathalie Reims, Les Reins et les Cœurs. Récit d'une année d'épreuves et de souffrances, de la dialyse à la grève de rein. L'occasion de revenir sur la réforme de la loi sur la bioéthique qui est actuellement en débat au Parlement et notamment sur l'un des points abordés, le don d'organes. Nathalie Reims est notre invitée, avec à ses côtés Benoît Lagan.
Eh bien, Emmanuel Dupuis, médecin néphrologue que Nathalie Reims a croisé lors de son parcours. Olivier Bastien, directeur de l'activité de prélèvement et de greffe d'organes et de tissus en France à l'Agence de la biomédecine. Oui, tout ça. Et Brigitte Fanny Cohen, journaliste santé à France 2 et auteur du livre Les Pourquoi de la santé, paru chez Albin Michel.
L'actualité est aussi musicale. Tous les jours, la programmation live est signée Marion Guilbeault ce soir. C'est extraordinaire, c'est super.
Ah, ce soir, si vous avez la nostalgie des voix de Janis Joplin et d'Aretha Franklin, eh bien l'américaine Brittany Howard n'a pas fini de vous faire vibrer. On a rendez-vous avec elle en live avec ses musiciens dans quelques minutes.
Et puis dans le NRV la suite, autre parole, autre temps, deuxième rendez-vous en cette semaine de rentrée scolaire avec Françoise Dolto, l'héroïne de Lorsque l'enfant paraît, 6 à 10 minutes de prise de parole quotidienne de 1976 à 1978. C'était dans l'émission Le temps de vivre de Jacques Pradel. Ce soir, la psychanalyste répond aux parents qui s'inquiètent de l'arrivée du deuxième enfant, je m'en fous, j'étais l'aîné. De la jalousie entre enfants, c'est eux qui me détestaient. De fessées, je n'en ai jamais reçu. Des morsures, j'en ai donné. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Nathalie Reims, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Rentrée littéraire pour vous avec ce récit Les Reins et les Cœurs, un récit art-thérapeutique, l'équivalent d'un diamond painting. C'est ce qu'on apprend à la fin de ce récit. Vous y racontez une année très difficile, on va y revenir. Vous êtes atteinte d'une maladie génétique qui attaque les reins, une maladie qui a atteint toutes les femmes de votre famille, votre grand-mère Alix, sa sœur Minka, votre mère, et ça remonte même les générations, l'arrière-grand-mère, insuffisance rénale d'origine génétique. Et vous dites que pendant longtemps, vous ne vouliez pas surveiller vos reins. Comment vous expliquez avec le recul ce refus, ce déni même?
Bon, on peut vraiment appeler ça un déni, parce que j'avais vu ce gène faire de tels ravages autour de moi. Enfin, en effet, ma mère avait le record à l'époque de longévité des hémodialysés. Elle avait vécu 25 ans en dialyse, était morte dans sa machine. Ma grand-mère avait été foudroyée. Toutes les femmes, comme vous dites, Laurent, ont été foudroyées. Et Bettina, ma sœur, qui est photographe.
Bettina Reims, oui.
Bettina Reims, qui elle-même était évidemment concernée par ce gène, puisque nous sommes sur le tracé de la ligne. Elle, depuis 20 ans, faisait les choses bien et se faisait régulièrement suivre. Et elle me disait, tu devrais en faire autant. Et moi, je sais pas. Quand on est dans le déni, c'est quelque chose de très particulier. Je me disais, pas moi, c'est pas ma famille. Au fond, j'ai dû être trouvée dans un carton à chapeau sur les marges de...
Oui, c'est ce que vous racontez dans ce récit.
Sur les marges d'une église. Pourquoi d'une église? Je sais pas, parce que sûrement, donc, je n'avais pas la religion qui est la mienne. Enfin, on se raconte absolument toutes sortes de choses. Et puis, je devais quand même avoir des petites prémonitions. Mais moi, c'est dans l'écriture, toujours, que les choses m'arrivent. Donc, c'est arrivé en août 2017 et je sortais dans la rentrée littéraire à ce moment-là un texte qui s'appelait « Ma vie sans moi ». Donc ça, déjà, à mon avis...
Ça, pour un signe, c'est vrai.
Oui,
vous avez un inconscient à l'intérieur.
Oui, alors on va voir que le récit, hein, qui est donc un récit, qui n'est pas un roman...
Non, c'est pas du tout un roman.
Est absolument constellé de signes, mais on ne s'en rend compte qu'après. Donc je crois que mon organisme, lui, savait qu'il était en train un peu de vivre sa vie sans moi. Mais il a fallu qu'il y ait cette rentrée littéraire que, en fait... Le lendemain, j'avais tellement perdu de poids au mois d'août et j'étais tellement fatiguée, j'arrivais pas à monter les escaliers, j'étais essoufflée. Mais vous savez, ça c'est le déni, je me disais j'ai de l'asthme, je suis fatiguée. Et le lendemain, j'ai fait des analyses poussées, vraiment poussées pour les faire. Et là, j'ai eu un coup de fil du laboratoire qui m'a dit « Vous êtes en insuffisance rénale terminale ». Et j'ai atterri dans les mains de... du docteur Dupuis. Enfin, avant, j'ai atterri d'abord en réanimation pendant un très long séjour qui est raconté
dans ce récit.
L'expérience de ce que c'est aussi que de tout d'un coup de perdre tout, de perdre ce qu'il y a de vital, parce qu'on n'y pense pas du tout, mais les reins, je le dis dans le récit, c'est un peu le centre de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on dit on a mal aux reins, mais c'est pas vrai, on a mal au dos. Les reins, on s'en aperçoit une fois qu'ils sont plus là, alimentent le cœur, les poumons, le système respiratoire. Donc, il y a eu un œdème cérébral pulmonaire. Enfin, tout s'est mis comme un espèce de jeu de domino à dégringoler. Et puis surtout, il y a eu cette espèce de prise de conscience, même en réanimation, dans des états comme ça, très comateux, de toute cette famille, tout d'un coup, toutes ces femmes qui me déboulaient dessus. Et après cette réanimation qui a été comme ça très, très incertaine, hein, comme on va peut-être parler de ça.
Bien sûr, on va en parler avec tous nos invités.
Voilà, j'ai pu croiser la route d'Emmanuel Dupuis, mon
néphrologue. Aux yeux bleus.
Aux yeux bleus.
Je vérifie, voilà. C'est vrai. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fake news.
Non, ce n'est pas une fake news. Et là, comme toute personne touchée vraiment dans son corps et dans son intime, c'est à lui que je me suis accrochée avant d'avancer et de savoir que plus tard, il y a tant de choses qui allaient se passer.
Notamment la greffe, on va y revenir. Juste une question par rapport aux journalistes. J'ai vu qu'ils ont joué pas mal sur votre nom. Vous vous appelez Nathalie Reims, oui. Vous êtes malade des reins. Comment vous avez compris cette analyse sauvage de la part des journalistes?
Écoutez, je l'ai compris très bien parce que je trouve que le titre est un peu facile et bien, mais en même temps, ma mère ne s'appelait pas Reims,
exactement,
ma grand-mère
voilà.
Non plus, sa sœur non plus. Donc là, c'est peut-être le seul... Enfin, on peut dire que c'est le stade terminal du signe, si vous voulez. Ça, on peut le prendre comme ça. Mais des signes, on en a eu des plus étonnants, quand même, à mon avis.
Alors, une de vos premières réactions, c'est tout ce que vous voudrez, mais pas la dialyse, c'est ce que vous écrivez. Ouais. C'est lié à la maladie rénale de votre mère et sur laquelle vous écrivez cette abominable dialyse qu'il avait contrainte à s'effacer aux yeux de tous.
Oui, parce que une fois que j'ai rencontré la dialyse... En même temps qu'Emmanuel Dupuis, le docteur Dupuis, j'ai compris que j'allais avoir rendez-vous un jour sur deux avec un vampire, ce qui n'est pas exactement la chose dont on rêve quand même tous les jours, enfin à moins d'être très gothique et de souhaiter qu'on vous aspire le sang par les veines, mais en fait c'est une machine qui à la fois vous épuise, mais qui vous maintient en vie, et c'est une espèce de dépendance, une relation d'amour et d'haine, en même temps parce que c'est épuisant, mais en même temps parce que cette machine vous traite. Mais il faut savoir que c'est 4 heures, un jour sur deux, que c'est extrêmement contraignant. Et que oui, voilà, c'était une drôle de rencontre. Et pour avoir vu ma mère et tant de gens, ils jetaient leur vie.
Ils passaient leur vie, oui.
Ils passaient leur vie.
À tous les sens du terme. Hein.
C'était tout d'un coup un choc. Et puis comme les réveils de déni, évidemment, c'était... Mais voilà, je pense que toute personne à qui on annonce ça, qu'elle soit dans une situation aussi limite que la mienne, que... Les gens raisonnables suivis depuis des années par des néphrologues se disent tous la même chose.
Alors justement, en parlant de néphrologie, Emmanuel Dupuis vous propose soit une fistule sculptée dans le bras ou un cathéter central implanté à la base de votre cou et vous vous opposez à la fistule. Pour quelles raisons? Et ensuite, je demanderai à Emmanuel Dupuis.
Je pense qu'on ne va peut-être pas avoir les mêmes analyses, Emmanuel et moi. Mais
bien sûr, hein.
Pour moi, la fistule, si vous voulez, c'était d'abord... Je pensais que la fistule, c'était l'acceptation. Et que comme ma mère, comme ma grand-mère, comme toutes ces femmes, j'allais me soumettre à la dialyse. Et que pour moi, il n'était pas question de se soumettre. Je voulais une autre solution. Et quand Emmanuel m'a parlé du fameux cathéter du professeur Cano, c'est un petit peu technique, mais qui vous permet d'être dialysé. Alors c'est une voie ouverte, c'est un peu plus compliqué, mais qui est dur à poser, mais qui me donnait un espoir fou. C'est-à-dire, je voulais me dire... que je mourrais sans fistule. C'est complètement idiot, hein. C'est complètement romanesque, en plus ça vient...
Non mais au vu de l'histoire de votre famille, on peut comprendre cette position.
Je me suis dit, si je n'ai pas de fistule, je vais y arriver, je vais combattre et je vais y arriver, alors qu'on y arrive très bien avec une fistule. C'était juste l'histoire de la famille qui était... Voilà.
Emmanuel Dupuis ?
Oui, alors en fait, c'est vrai que pour Nathalie, c'était compliqué. Est-ce que c'était non seulement une maladie, mais une malédiction, avec cette histoire familiale, donc il y avait un poids très, très important, et donc il y avait ce problème de fistule. Alors... En théorie, c'est vrai que nous, néphrologues, on va prioriser la fistule. Pour la première raison, c'est une raison infectieuse, parce qu'il y a moins de risques infectieux avec cette technique. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une qualité de dialyse qui est supérieure. Maintenant, c'est vrai qu'avec les cathéters que l'on a actuellement, on arrive à avoir des rendus en termes techniques qui sont tout à fait satisfaisants. Mais c'est pas un choix pérenne, quoi. C'est un choix qu'on est... souvent obligé de convertir en fistule. Là, il y avait, en effet, il y avait ce poids familial et je voyais vraiment que pour Nathalie, c'était extrêmement important. En plus, elle était très fatiguée, très dénutrie, donc je me suis dit, c'était pas raisonnable de toute façon de faire la fistule, à la fois sur le plan moral et sur le plan physique. Donc j'ai pris l'option de garder le cathéter, avec en plus on avait cet espoir de greffe.
On en parlera. Voilà, il y avait un espoir de greffe, et pas une attente de greffe.
Voilà, un espoir de greffe assez rapide. Donc là on pouvait se permettre, en sachant que les cathéters, quand même, à peu près 20% des patients en France sont dialysés sur un cathéter. Et c'est une voie d'abord qui peut durer 18 mois jusqu'à 3 ans. Hein, donc parfois plus, mais il faut les changer. Quoi.
On va rentrer un peu plus dans le récit, justement, avec tous nos autres invités. Tout de suite, eh bien, c'est musique.
Thunderclouds when you walked in. But I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling.
Never ask me
how I like my eggs in the morning.
Never ask me.
Taking comfort in my shadow. But you seem to stay afloat, cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow. Cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Swimming in your ocean got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts.
C'était la nouvelle voix de la soul métissée, made in London, Joy Crooks.
Il a un problème !
On est tous donneurs d'organes. Pas besoin de s'inscrire comme donneur. Pas besoin de carte de donneur. On est tous donneurs d'organes. Et c'est bien. Parce qu'on peut tous être receveurs.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Les jours de peine fredonnent un je ne sais quoi. La ritournelle.
Mylène Farmer, Point de suture. Vous nous expliquez la raison de cette chanson, Nathalie Rhin. J'ai l'impression que juste en l'écoutant, il y a quelque chose qui... Ben qui oui. Se passe pour vous, hein.
Oui, parce que... Pardon. Non, déjà, la présence de Mylène dans ma vie est quelque chose de, voilà, d'extrêmement fort et miraculeux. Et, Et ça va provoquer des choses aussi assez miraculeuses. C'est-à-dire que ce que je raconte aussi dans le récit, c'est que il y a 10 ans, 11 ans maintenant, je crois, j'avais subi la mort de Claude Berry, enfin comme toute personne qui vit un deuil très dur comme ça, qui était, toute l'histoire était trop lourde, on la résumera pas ici, mais enfin j'étais seule depuis un an comme ça, très très dans le deuil, très incapable de prendre le dessus. Et bon, cette relation de Mylène et moi, elle existe depuis beaucoup beaucoup d'années, et c'est une relation de confiance et de sororité en fait. Et elle m'a dit comme ça, il faut que tu te secoues, c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui te plaît, c'est pas possible, il y a toujours quelqu'un qui plaît. Je lui dis non, mais elle me dit, mais je sais pas, dis-moi n'importe quoi. Elle m'a dit, je sais pas, Georges Clooney, Brad Pitt, enfin, c'était tellement surréaliste. Je lui dis, mais non, écoute, arrête. Et elle insiste et je lui dis, ah ben si, tiens, il y a un garçon qui me plaît. Je savais même plus quoi dire. Je lui dis, tu sais, elle était en tournée. Ouais. Et je lui dis, quand tu chantes Point de Suture, il y a un grand écran qui descend. Et ben le garçon qui danse en noir et blanc, voilà. Ben lui, il me plaît. Je lui dis, mais alors c'est qui? Elle me dit, ah ben j'en sais rien.
Mais oui, elle ne voit pas du tout qui c'est. Oui.
Ben, mais elle chantait se renseigne. Non, mais si, elle savait que c'était, parce qu'évidemment...
Ah oui, c'était un de ses danseurs.
C'était, enfin voilà, c'était quelqu'un qui avait participé indirectement au spectacle, parce qu'il n'était pas sur scène. Hein. Bon, donc elle appelle, elle se renseigne, je suis là et... Et elle me met comme un défi, elle me dit, voilà, maintenant tu te débrouilles. Voilà, voilà la façon de le joindre.
Et cet homme a rentré dans votre vie jusqu'à plus tard.
Voilà, il est rentré dans ma vie sur Point de Suture. 3-4 ans après, j'ai fait un roman sur lui, mais très indirect. C'était de la fiction, sur un ange descendu, venu sauver quelqu'un. On est à l'époque des cathares. J'ai écrit, le titre du livre était « Car ceci est mon sang », donc Point de Suture, «
Car ceci est mon sang », on arrive à mes reins.
Et en fait, et je suis en réanimation, et il dit à Léo Cher, qui est présent dans le livre et qui est mon éditeur, mais qui est une sorte d'âme sœur depuis toujours, depuis 30 ans, qui est vraiment un double, il lui dit tout de suite, je vais lui donner un rein. Bon, moi, je ne l'entends même pas à ce moment-là, évidemment. Mais Emmanuel va l'entendre et c'est à partir de là où,
ouais.
Voilà, Emmanuel Dupuis va l'entendre et voilà, à partir de là va commencer un long chemin avec les gens dont certainement vous allez nous parler, Emmanuel et vous docteur, qui sont évidemment les gens qui s'occupent, c'est-à-dire de cette chose très particulière qui est les recherches, la préparation à la greffe, puis la greffe.
Alors justement, en France, 57 000 personnes vivent grâce à une greffe. Pourtant, le nombre de greffes a baissé de 5% en 2018, après plusieurs années de hausse. Comment on l'explique, d'après vous? Alors, Olivier Bastien, qui est responsable de l'agence Biomédecine. Oui.
Alors, on a expliqué d'une part par la baisse de la mortalité, en particulier la mortalité liée aux accidents vasculaires cérébraux, ce qui est une bonne chose. Voilà, on avait... penser compenser plus par l'augmentation du don du vivant, en particulier pour le rein, et puis pour des raisons à la fois organisationnelles, de charges de travail, et aussi d'information, parce qu'effectivement, le premier pas pour trouver un donneur, c'est pas si facile, et c'est vrai qu'on a relancé des campagnes, mais le don du vivant n'a pas augmenté au point où on le voulait.
Je vous coupe une toute petite seconde, juste pour vous dire que c'est très difficile. D'une part, c'est très difficile pour le donneur, c'est même... une décision absolument cruciale, mais c'est très, très difficile pour le receveur de l'accident.
Bien sûr, vous parlez bien de la culpabilité et de tout ce que ça remue à ce moment-là, bien entendu.
Mais comment on explique cette baisse du ton d'organe? Parce que c'est la méconnaissance aussi des modalités de prélèvement, les inquiétudes. Brigitte Fanny Cohen.
Alors justement, on a évoqué, donc vous l'avez dit, ce merveilleux progrès de la médecine, c'est-à-dire une baisse au moins de 15% des AVC mortels. AVC qui avant pouvait faire des dons d'organes. Et il y a aussi une autre explication qui a été donnée à cette baisse des greffes, c'est qu'effectivement il y a des équipes surchargées, notamment au moment de l'épidémie de grippe en 2018, et qui n'ont pas eu le temps, les moyens nécessaires pour les prélèvements d'organes. C'est des explications qui avaient été données au moment où on a constaté cette baisse de greffes.
En tant que journaliste, je sais que vous avez eu...
Mais
vous avez
ça a repris en 2019.
Oui, quand même, oui, c'était la bonne nouvelle. En tant que journaliste, vous avez rencontré plusieurs situations différentes de dons d'organes. L'une positive, c'est ce que Benoît me racontait, entre une mère et son enfant, et l'autre plus conflictuelle, entre un frère et sa sœur. Pouvez-vous nous raconter ?
Oui, alors c'est vrai que dans le livre de Nathalie Reims, c'est extraordinaire, ce don qui est fait, mais d'une façon tout à fait merveilleuse, il y a pas de, on a l'impression que c'est évident. Voilà, on se pose pas la question. C'est un peu comme dans un reportage que j'ai fait qui m'a laissé une impression, mais de plénitude, de grâce. C'est un reportage sur un don de rein entre une maman et son fils, un petit garçon. Ça semble absolument évident qu'une mère donne un rat à son fils, on donnerait sa vie pour son enfant. Mmh. Mais j'ai vu aussi à d'autres occasions, d'autres reportages, que le don avec un donneur vivant n'allait pas de soi, notamment dans les fratries. J'ai vu un frère donner à sa sœur, en apparence, tout était merveilleux, il avait été super courageux, on en faisait une histoire exemplaire. Et en creusant un petit peu, quand j'ai questionné ce frère qui avait donné, je me suis rendu compte que, il n'y avait plus de contact quasiment entre le frère et la sœur, il y avait des non-dits dans la famille, il y avait une sorte de, elle, de son côté, de culpabilité parce que son frère lui avait donné un rein. Lui s'était senti sous la pression de ses parents, il s'était senti obligé de donner cet organe un peu contre son gré. Et je lui avais dit, mais je ne comprends pas, il y a quand même des psychologues qui sont là pour faire le filtre. Qui disent à un moment, oui. Ben non, vous n'êtes pas prêt. Et il m'avait dit, mais les psychologues n'en ont rien à faire. L'important, c'était que je donne mon rein. Donc, je l'avais senti pressurisé. Et c'est une expérience, j'espère vraiment qu'elle est minoritaire. Et c'est une expérience vraiment de reportage qui m'avait beaucoup heurté dans le don d'organes avec donneurs vivants.
Olivier Bastien, il y a des recours possibles quand ça se passe comme là, ça?
Il n'y a pas que les psychologues, puisque dans le parcours, on va dire, il y a le passage dans le comité donneurs vivants, qui est constitué de 5 personnes. Et c'est l'un des rares décisions, on va dire, réglementaires ou juridiques même, où il n'y a pas de justification. C'est-à-dire que si le monsieur en question voulait se rétracter, eh bien, il peut le faire devant le comité et personne ne saura jamais la raison pour laquelle la rétraction s'est faite.
Mais ainsi
donc
qu'on
ça,
peut
c'est
le faire
pour
la veille
protéger
aussi.
Le donneur. On peut le faire
donneur
jusqu'au
peut
bout.
Le faire le donneur peut le faire
exactement.
Jusqu'au bout. C'est très
exactement.
Important.
Et ensuite, il y a un passage aussi devant un magistrat. Oui. Qui est aussi une autre forme, on va dire, de sécurisation.
Parce que concrètement, comment ça se passe dans le cas de Nathalie Reims? Il y a un donneur pour Nathalie, mais quand on a besoin d'un rein et qu'on n'a personne qui nous donne, alors le donneur, il vient d'où? Le rein, il vient d'où? On entre sur liste d'attente, et ensuite, comment ça se passe, en fait?
La majorité des greffes sont faites à partir de donneurs décédés, hein, donc décédés soit de mort encéphalique, soit d'arrêt cardiaque. Et puis, il y a aussi des possibilités de dons croisés. C'est une des possibilités qui est explorée actuellement. Quand effectivement, des proches ont un donneur potentiel, mais qui n'est pas compatible. Et vous l'exprimez très bien dans votre livre, cette période de doute, on va dire, sur la compatibilité.
Le rein, c'est le premier organe à avoir été greffé au monde. La première tentative, je crois, ça remonte à 1947. Vous comprenez peut-être, Emmanuel Dupuis, aux États-Unis. C'est aussi celui pour lequel il y a plus de patients en attente sur la liste nationale. Comment ça s'explique?
Parce que c'est une des maladies, c'est une maladie fréquente. Il y a 3 millions d'insuffisants rénaux en France. Et donc, il y a 45 000 hémodialysés. Et sur les 45 000, je crois qu'il y en a presque la moitié qui sont inscrits. Mais il y en a pas mal qui sont en contre-indication temporaire. Il faut voir aussi que les patients dialysés, donc c'est une moyenne d'âge assez élevée, hein, puisqu'elle est de 70 ans. Donc vraiment, on a essayé d'élargir le champ des possibles. Et là, on remercie beaucoup les centres et les médecins en transplantation rénale qui ont beaucoup travaillé pour ne pas donner de limite à la greffe. Donc il n'y a plus de limite d'âge quand même, ça c'est assez extraordinaire. Hein. En France, on peut être greffé à tout âge. Mmh. À condition, bien sûr, de remplir des conditions cliniques satisfaisantes.
Votre patient le plus âgé, par exemple, il a presque 90 ans
qui a... Oui, on a un patient qui est inscrit en greffe qui a 88 ans, exactement.
D'accord, ouais, en effet.
Donc, voilà, il n'y a pas de limite. Alors, c'est vrai qu'il est physiologiquement très bien. On lui en donne 10 ans de moins. Il a, heureusement, durant sa vie, hormis la maladie rénale, pas eu d'autres pépins type cancer, cardiopathie, etc. Mais ça laisse quand même des espoirs importants pour ces patients.
C'est quoi la pratique du rein local?
La pratique du rein local.
C'est quoi le rein local?
Je vais répondre. Alors, oui,
voilà. alors,
c'est pas une pratique. C'est historiquement, l'allocation des organes a été organisée régionalement.
Ouais.
Ça a été le France Transplant au départ, et ensuite l'établissement français des greffes plus l'agence de la biomédecine. Actuellement, les reins sont répartis par un score. Il y a deux reins pour les personnes décédées.
Ouais.
Il y a un rein dont on essaye de trouver un receveur le plus proche possible, donc c'est ce qu'on appelle le rein local.
Ah,
s'il
n'y
en a pas, il est redistribué sur le plan national. L'objectif, c'est de diminuer la durée de transport, donc d'améliorer la qualité du greffon. Voilà, c'est une pratique qui peut être discutée, mais la majorité des reins sont attribués avec un score national.
Brigitte Fanny Cohen ?
Oui, je voulais savoir si un patient de 88 ans sur liste d'attente avait le même délai d'attente qu'un patient, par exemple, de 20 ou 30 ans.
Ah, en fait, les reins sont... Oui, c'est les mêmes délais d'attente, mais les reins sont appariés hein, pour l'âge. C'est-à-dire qu'on essaye de donner des reins jeunes à des patients jeunes et des reins plus âgés à des patients âgés.
Il ne peut pas y avoir plus de 20 ans de différence entre le donneur et le receveur.
Dans un article, j'ai lu la présidente d'une association, l'association Rénolo, qui disait qu'il y avait parfois discrimination entre régions et milieux sociaux. Vous confirmez ça, Olivier Bastien ou...
On a rencontré Rénalou encore hier, vous voyez, donc on discute souvent avec les associations.
Avec cette association, ouais.
Il y a effectivement des modifications régionales où il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a des régions où les patients sont plus âgés, des régions où les patients sont plus jeunes, il y a des régions où il y a plus de groupe B, il y a des régions, etc. Donc il y a des différences, c'est pas ça une discrimination, il y a des différences régionales. Le score est là pour essayer de corriger une partie de ces différences. Il y a également des différences de pratiques médicales. Il y a des régions où on inscrit plus tôt les patients que d'autres. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler avec à la fois les sociétés savantes, les médecins, les néphrologues et puis les patients, de façon à essayer d'être le plus équitable possible.
Nathalie Reims, vous connaissiez donc ce donneur, ce fameux danseur que vous aviez rencontré 10 ans auparavant.
Qui n'est pas danseur du tout, mais enfin qui dansait là exceptionnellement.
Il dansait dans le clip de Mylène Farmer.
Il n'est même pas danseur.
En plus, il n'est même pas danseur. Comment vous avez compris sa proposition? Vous vous souvenez comment vous l'avez vécu?
Oui, enfin, je l'ai vécu au début aussi, alors par une sorte de refus pratiquement aussi fort que le déni. C'est-à-dire que je me disais, on a 12 ans d'écart, il a 12 ans de moins que moi, et je me disais, qui es-tu pour accepter que ce garçon, en pleine santé, avec un parcours absolument sans accroc médicalement, comment est-ce que tu peux accepter un tel don? C'est-à-dire que, vous savez, on a toujours l'impression, le mot don, enfin, on n'est pas toujours appareillé avec les mots, même si la langue française est très riche. Mais là, le don, il est vertigineux. Et comme on s'aime très, très profondément, lui et moi, il a été aussi persuasif que moi, je passais mon temps à lui dire « mais non, mais je veux pas ». Enfin bon, ça a été une espèce de danse entre celui qui veut et celle qui veut pas. Et puis à un moment, il a dit « écoute, si tu ne veux pas... alors je suis là pour rien. » Enfin, il a jeté une espèce de il a tout jeté dans la bataille, quoi. Et à ce moment-là, ben, le chemin a commencé de l'acceptation a commencé à se faire. Mais je voulais juste dire quelque chose, c'est que l'épreuve que j'ai traversée, en fait, n'est pas grand-chose, puisque les épreuves de la vie, c'est une marche, elles vous mènent vers la vie ou vers la mort. Là, en l'occurrence, on parle de vie aujourd'hui. Le moment le plus difficile, ça a été au bloc opératoire, à l'instant où le chirurgien m'a dit « on va vous endormir et on va ouvrir votre donneur ». Et là, je dois dire que oui, c'était vertigineux, mais en même temps, c'est comme ça que les choses avancent et c'est ça qui est miraculeux.
Et comment on accompagne, du coup, dans le cas de Nathalie, comment on a accompagné le donneur, justement, pour l'aider dans sa démarche?
Emmanuel Dupuis.
Alors ça, c'est essentiellement, en fait, le service de transplantation rénale. Moi, en fait, mon travail, c'est de voir les patients quand ils ont une maladie rénale suffisamment évoluée pour être proche de la dialyse, ou bien qui sont malheureusement qui ont débuté la dialyse un peu en urgence et pour lesquels on n'a pas pu préparer en fait la greffe. Et donc mon travail, c'est de savoir s'ils peuvent bénéficier d'une greffe et de les adresser au service de transplantation. Et là, je mène une petite enquête à petits pas, prudente, en effet, pour les raisons que vous avez très bien énoncées. C'est-à-dire que des fois, dans les familles, il y a des conflits, il y a des pressions. Donc, on peut demander s'ils ont quelqu'un capable de leur donner un rein, ou en mesure de leur donner un rein, mais il faut le faire avec prudence et doucement. Et sans doute, et souvent, ça nécessite plusieurs consultations. Voilà, donc après, une fois cette démarche faite, le patient est adressé, le plus souvent avec son donneur. Souvent, j'ai fait un bilan de débrouillage, entre guillemets, pour savoir si le donneur était compatible et physiquement, cliniquement capable de donner un rein. Et à ce moment-là, il est adressé à l'équipe de greffe.
Alors là où il y a aussi, il y a eu comme ça une lumière aussi qui s'est allumée, c'est que Bettina, elle avait
Bettina Reims, votre sœur.
Oui, Bettina Reims, elle avait fait le chemin de croix depuis des années. Elle était passée de gens extraordinaires à Necker, du professeur Grünfeld au professeur Legendre aujourd'hui. Et, et au professeur Joly surtout qui la suivait. Et donc ça a été voilà, ça a été évident que au moment où elle a su que j'étais voilà, que j'étais dans le coma, elle s'est dit voilà, il est peut-être temps de s'en occuper. Donc j'ai eu cette chance là de
ouais, pour Nathalie, c'est vrai que ça a été très vite et c'était une évidence en fait, et grâce au parcours de Bettina et grâce en effet à Dominique Joly. Oui.
On va revenir sur la suite de ce parcours dans quelques instants. Alors lui, avec Daniel Darc et Mire Weiss, il était l'un des membres historiques du groupe Taxi Girl. Laurent Sinclair s'est éteint hier en décédé du rock'n'roll. Cherchez le garçon. Avec Laurent Sinclair au clavier, un garçon a disparu.
France Inter.
Le consentement présumé du défunt qui fait qu'on va vous prélever d'office si vous n'avez rien dit, je pense que ça n'est pas un don. C'est la raison pour laquelle les Allemands le refusent absolument. C'est compte tenu de leur passé. Pour eux, consentir, c'est consentir explicitement. L'idée qu'on passe à côté du consentement explicite, ça ne va pas.
Le nouveau rendez-vous.
Toute famille peut se trouver en situation soit de recevoir un organe pour sauver la vie d'un des chiens, soit de donner. Et c'est le choix de la solidarité qu'il faut faire. Mais un choix actif, délibéré, explicite.
Laurent Goumard.
À l'occasion de la parution du récit Les Reins et les Cœurs de Nathalie Reims aux éditions Léo Cher, on se demande où en est la politique française en matière de dons d'organes et de greffes. Pour en parler autour de Nathalie Reims, le néphrologue Emmanuel Dupuis, c'est un commandant de vaisseau, le responsable de l'agence biomédecine Olivier Bastien et la journaliste santé Brigitte Fanny Cohen. On entendait à l'instant la philosophe Sylviane Agazinski. Dans son livre Le Tiers-Corps, elle expliquait qu'en rendant automatique le don, la loi en perdait le sens. Est-ce que vous comprenez cette critique de ce qu'elle appelle le paradoxe du don d'organes, Olivier Bastien?
Alors, c'est un débat historique. Hein. Ouais. C'est un débat historique sur le don, le contre-don, etc. Bon, elle citait l'Allemagne. L'Allemagne fait deux fois, pratique deux fois moins de greffes d'organes par million d'habitants que la France.
Et pour quelle raison?
Parce que le système du don explicite ne marche pas bien. Voilà, le seul pays qui a un système un peu intermédiaire mais qui s'approche, c'est les États-Unis, où ça marche bien. Tous les autres pays, les Pays-Bas ont changé également la loi, l'Angleterre est aussi en train de le faire, le pays de Galles l'a fait. Et les pays où il y a le plus de prélèvements, la France fait partie du top 5, c'est l'Espagne, c'est enfin tous les pays qui ont le même système. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'humanité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder les familles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner. Mais voilà, la solidarité, ça ne se décrète pas, si vous voulez.
Brigitte Fanny Cohen, on est un bon exemple en matière de politique de don d'organes en France ?
En tous les cas, pour revenir sur ce que vous disiez, j'ai quand même l'impression que dans les faits, même si la loi indique que s'il n'y a pas de refus de son vivant, on est un donneur potentiel, les familles sont quand même très sollicitées. On leur pose la question. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de brutal. Le don ne se fait pas à l'encontre des familles. Enfin, normalement, enfin, il me semble dans les hôpitaux quand.
De toute façon, le témoignage peut être aussi oral. Donc, ce qui est recherché vis-à-vis des familles, c'est le témoignage d'une expression orale d'un refus qui aurait été transmis et la loi l'a prévu.
Oui, mais ce qui est important de dire, à mon avis, c'est que c'est vrai ce que vous dites sur le plan légal et le plan de la législation, mais j'ai toujours pensé, puisque j'avais bénéficié de ce don de donneur vivant, aux familles à qui on annonce, dans le même temps que la personne qu'ils aiment, qu'ils chérissent, est à la fois en mort encéphalique. Et évidemment, il faut aller vite, ce qui paraît logique, parce qu'il ne faut pas que les greffons souffrent. Et on pose tout de suite la question aux familles en disant, on l'a vu avec des coordinateurs de greffe qui sont des gens extraordinaires, mais qui posent quand même la question.
Pas une question de vitesse, hein. Je ne pense pas que c'est une vitesse. Et d'ailleurs, dans l'arrêté de bonne pratique, il est dit, il faut laisser à la famille le temps, etc. Donc il faut même faire parfois plusieurs entretiens.
Oui, mais enfin bon, c'est toujours difficile.
Mais c'est une situation toujours exceptionnelle
et très
difficile,
douloureux, quoi qu'il en soit.
C'est pour ça que c'est important, et on a eu plusieurs campagnes d'information là-dessus, c'est important d'en parler de son vivant. Parce que si un jour, malheureusement, on est confronté à cette situation horrible, le fait d'en avoir parlé de son vivant fait que la décision elle est quand même plus facile à prendre. Si quelqu'un vous a dit « je veux absolument être donneur d'organes » ou « je ne veux absolument pas l'être », ça change tout quand même.
Mais on dit qu'on a du mal à en parler, les gens ont peur de parler de ça en fait, vous le constatez
mais
encore ?
Bien sûr, mais moi-même dans ma famille, c'est arrivé où un jour à table, j'ai dit « mais moi, j'ai ma carte de donneur d'organes », j'ai commencé à parler de ça et tout le monde m'a dit « mais oh là là, mais ne parle pas de ça », comme si ça pouvait porter malheur de parler ouvertement du don d'organes.
Mais grâce à vous, quand même, en 2 ans, il y a eu un progrès considérable dans la connaissance. Actuellement, plus de la moitié des personnes, dans les sondages que l'on peut faire, ont entendu parler de la loi, ont commencé à aborder le sujet, etc. Donc, c'est un progrès considérable qui a eu lieu en 2 ans, si vous voulez. Et ça, c'est grâce au travail avec les médias, aux campagnes réitérées et au fait que le sujet n'est pas tabou, qui était un progrès important.
Un mot sur les greffes expérimentales, celle de l'utérus en avril 2019, la greffe de la main, la première, c'était en 1998. Où en est-on aujourd'hui ? Quelles sont les greffes envisagées dans l'avenir ?
Alors, il y a des greffes de larynx qui sont en projet de recherche pour des gens qui ont été opérés, qui n'ont plus de larynx. Voilà, la greffe d'utérus, il y a plusieurs équipes qui sont sur ce projet. Et puis, il y a des greffes où on... un peu plus élargi, on va dire, au niveau non plus des avant-bras, mais des bras, c'est assez haut. Voilà, c'est les projets les principaux.
Juste Brigitte à noter Fanny que la greffe d'utérus, en fait, est une greffe qui est temporaire, c'est-à-dire, c'est pas une greffe comme les autres organes, pour durer le plus longtemps possible, c'est le temps de faire un bébé, et ensuite, une fois que le bébé est né, on enlève cet utérus qui a été greffé.
Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a les greffes d'organes, les greffes de tissus, est-ce qu'il y a...
De peau, de valve, voilà. D'os, d'artères.
Est-ce qu'il y a, on sent des refus ou du moins des craintes de la part des patients autour de, ou des familles par rapport à certains prélèvements par rapport à d'autres? Est-ce que vous sentez que le rein, bon, on peut le faire de son vivant, le cœur, il y a quelque chose de très symbolique?
Il y a effectivement tout ce qui est visuel peut et des fois effectivement poser question. Et puis il y a aussi beaucoup de liens avec la culture des personnes. Effectivement, vous parliez du cœur ou des symboliques, on va dire, de chaque organe, qui fait qu'effectivement on est aussi en train de travailler sur comment s'adresser et comment informer certaines personnes qui ont une culture, une histoire, une religion qui est différente.
Emmanuel Dupuis, vous avez suivi, bien sûr, pendant près d'un an, le parcours de Nathalie Reims. À la lecture de son livre, qu'est-ce que vous avez appris, en fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué?
J'ai appris beaucoup de choses, en fait. Hein. Je pense que c'est un livre qui est aussi à lire par les médecins, parce que, en fait, nous, on est un peu campés, dans la technique. Et donc on se cache pas, mais on est obligé. Enfin, on a un devoir d'être fournir un service technique qui soit le plus abouti et le plus irréprochable possible. Mais des fois, en fait, ça nous masque l'être humain derrière cette technique. Et c'est vrai qu'un livre comme ça nous secoue un peu en disant attention, hein, y a pas que la technique, mais y a la personne derrière. Avec sa force, sa sensibilité, parce que Nathalie, en fait, elle est passée par des moments extrêmement difficiles. Elle a surmonté ces moments avec une force qui était, pour moi, au-delà de la médecine. C'était pas seulement la technique qui l'a sauvée, c'est aussi cette force qu'elle a en elle. Et ça m'a appris beaucoup, et faire attention à cette force que les gens ont, cette force de vie, au-delà de la technique.
Brigitte Fanny Cohen, le type de témoignage de Nathalie Reims, comment en tant que journaliste vous pouvez aussi l'utiliser pour justement aborder ces questions-là de façon peut-être plus prégnante pour le téléspectateur, l'auditeur?
Moi, j'aurais envie de dire, à la lecture de ce livre, c'est vrai que vous avez parlé de ce déni que vous aviez par rapport à cette maladie rénale qui affecte les femmes de votre famille. Il y a, comme vous, en France, beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent en dialyse et qu'on peut faire de la prévention et qu'on peut leur dire « mais faites attention à vos reins ». Alors, quand on a une maladie génétique, c'est évidemment moins facile, mais il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent se soigner, comme l'hypertension artérielle, comme l'obésité, le diabète. Et quand les gens ont ces facteurs de risque, il faut aussi leur dire que leurs reins sont peut-être en souffrance, qu'il faut consulter, ne pas attendre la dernière minute, parce qu'effectivement, comme vous l'avez tellement bien raconté dans votre livre, se retrouver du jour au lendemain en dialyse, c'est vraiment une épreuve incroyable.
À quel moment vous avez compris que vous deviez écrire ce livre, Nathalie Reims?
Mais en fait, je l'ai compris à un moment donné très, très précis. Alors, comprendre, c'est une chose, y arriver, c'en est une autre. Mais enfin, c'est le 20e, donc je pense qu'il y avait aussi un petit peu d'assises hein, derrière ça.
Je pense aussi, oui.
C'est le professeur Dominique J, dans le livre, le professeur Dominique Joly, on peut le dire, qui est rentré dans ma chambre 2 jours après la greffe et qui m'a dit, vous savez, Nathalie, souvent, les gens greffés, c'est quelque chose de très, très difficile. Et il va falloir faire de l'art-thérapie, c'est très bien, je vous conseille l'art-thérapie.
Parce qu'il peut y avoir une dépression très profonde.
Voilà, après, ouais. Oui, parce que c'est très difficile à accepter. Puis les traitements, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose d'assez lourd, de très observant. Enfin, ça n'a rien à voir avec la dialyse, mais ce n'est pas non plus rien. Et je lui ai dit, ah bon, mais c'est quoi l'art-thérapie? Je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit, bah, vous savez, il y a le centre Gabriel, il y a des endroits, on fait du coloriage, on fait de la poterie et on fait du diamond painting. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, bon déjà, il doit pas du tout savoir ce que je fais dans la vie, mais ça n'a aucune importance. Tu veux de l'art-thérapie? Je me suis dit dans ma tête, eh ben tu vas en avoir de l'art-thérapie. Voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, ça, il faut le faire. Après, il fallait retrouver les forces et petit à petit, je m'y suis mis tout doucement.
On va revenir juste à l'histoire de la greffe. Dans une tribune publiée dans Le Monde, c'était en février dernier, plusieurs spécialistes recommandaient dans le cadre de la greffe de foie de développer des transplantations de foie partielles pour répondre à la pénurie. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Bastien?
Bah, il y en a. Hein. Il y a ce qu'on appelle le split, c'est-à-dire qu'on coupe un foie en deux et on greffe une partie du foie à un receveur. Alors c'est fait couramment pour les parents enfants. Et puis, c'est aussi possible pour les donneurs décédés de greffer. Mais par contre, il y a des problèmes de poids. C'est-à-dire que ça peut très bien fonctionner pour des receveurs de petits poids, comme Nathalie, par exemple. Mais pour un gros gaillard de 90 kilos, c'est pas suffisant.
Dans un rapport que l'Agence de la biomédecine a publié le 22 juin dernier, vous faisiez le constat qu'au sein de cette agence, que la coordination de prélèvement d'organes et de tissus était encore un métier mal connu. Alors ça, c'est encore un élément intéressant, c'est-à-dire qu'on a parlé des donneurs, on a parlé des receveurs, mais vous pointiez du doigt le fait que le métier qui permettait la coordination des prélèvements était mal connu.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un métier autour de la mort et de l'accompagnement, c'est un métier un peu transversal, c'est pas le métier qu'on apprend forcément dans une faculté de médecine, donc et on fait des formations spécifiques pour
ça. Et les choses peuvent changer par rapport justement au public s'il y a plus de personnes qui travaillent dans ce secteur-là? ou qui vont vers ce secteur-là ?
Oui, après, c'est aussi un métier qui est difficile. C'est un métier pour lequel il y a ce qu'on appelle un turnover. C'est-à-dire que les gens font ça, mais ils font peut-être pas ça toute leur vie. Donc, voilà, il y a cet accompagnement. Ça fait partie de notre métier d'aider ces coordinations.
Vous connaissez ce métier, j'imagine, Brigitte Fanny Cohen ?
Je connais ce métier, bien sûr. C'est vrai qu'il n'est pas très, très connu. Je pense que peut-être aussi on peut former aussi plus de médecins à ce métier.
Oui, alors c'est souvent des médecins issus de l'anesthésie-réanimation ou des urgentistes. Hein, et il y a des formations spécifiques délivrées par l'agence. Voilà, en tant qu'enseignant, j'ai aussi fait de la formation dans le biais de l'université. Mais voilà, il n'empêche que il y a effectivement des besoins encore.
Tous les médecins, tous les professeurs qui sont cités dans le livre, même le docteur Mengele, ont lu votre livre, Nathalie Reims.
Le docteur Mengele, je ne sais pas, je ne vais
c'est
pas.
C'est chapitre 11.
Je ne vais pas m'approcher de lui. Je crois, enfin, j'ai eu quelques retours, pas tous. Je pense qu'ils l'ont lu, mais voilà, ils sont certainement pudiques. Enfin, il y en a quelques-uns qui m'en ont parlé. Mais en tout cas, c'était à travers cet hommage, puisqu'on parle beaucoup de la santé en ce moment et que. C'est le temps vraiment de mettre à l'honneur un personnel extraordinaire, un personnel soignant inimaginable qui manque beaucoup de moyens, c'est vrai. Mais ça reste des êtres d'exception. Et voilà, je voulais juste aussi dire que j'avais été accompagnée par toutes sortes d'anges. Et eux en font partie.
Eh bien, c'est une bonne rentrée littéraire. Merci à
Merci
vous.
Merci beaucoup.
Tout de suite, on va retrouver Marion Guilbeault parce que l'actualité n'est pas que littéraire. Elle est aussi musicale. C'est le moment du live.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault, programmation américaine ce soir.
Et on se refuse rien au nouveau rendez-vous, non, je vois ça. Laurent.
Vous avez un budget ?
Ah ouais, je pense que j'ai tout craqué là, cette semaine avec Brittany Howard. La première fois qu'on a entendu sa voix incroyable, c'était en 2012. Elle était alors la chanteuse et guitariste d'Alabama Shakes. Alabama Shakes, un groupe originaire, comme son nom l'indique, d'Alabama. Et un groupe qui emmenait la soul vers des territoires électriques surchauffés. Et ça sonnait comme ça.
J'espère qu'elle n'a pas perdu cette voix.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle ait perdu I Found You. C'était Alabama Shakes. Moi, Brittany Howard, Laurent, je l'ai vu mettre une cigale à genoux. Mais vraiment à genoux. Tellement sa prestation vocale, musicale était incendiaire. Mais voilà, après deux albums, quatre Grammy, un duo avec Sir Paul McCartney sur Get Back, des tournées dans le monde entier, ben, Brittany Howard, elle a eu besoin de souffler, de s'émanciper de cette vie de groupe. Elle a 30 ans. Elle a envie de se pencher sur des choses un peu plus personnelles. Elle a donc voyagé pendant près d'un an dans son pays en solitaire, de Nashville, Tennessee, jusqu'à Topanga en Californie. Et là, elle s'est réfugiée dans une petite maison pour écrire les chansons de James. Et James, c'est le nom de son album solo, mais c'est aussi le prénom de sa sœur, décédée trop tôt. Elles étaient alors des adolescentes. C'est une sœur, c'est cette sœur-là qui l'a initiée à la musique, à la poésie. C'est donc un album intime. Elle y dévoile son enfance dans une famille métissée, dans une famille pauvre aussi, parce qu'elle a grandi dans un parc à caravane. Et c'est aussi un disque politique, parce que c'est un disque sur ce que c'est d'être une femme noire dans les États-Unis d'aujourd'hui. C'est aussi vulnérable que puissant. C'est un petit peu de douceur dans un monde décidément toujours brutal avec elle et ses musiciens. It's up to you, Brittany.
Merci.
Like doing it.
De son premier album solo, Jane, qui sortira le 20 septembre. Elle est en concert demain soir à l'Alhambra à Paris. À la basse, il y avait Zach Cockerell. Il y avait au chœur Carita Lowe et Shanae Johnson. Au caronne, Nate Smith. Au keyboards, Lloyd Buchanan. La prise de son était assurée par Guillaume Roux et Charles Leca.
Merci à tous nos invités, merci Emmanuel Dupuis, merci Olivier Bastien, merci Nathalie Reims, je rappelle votre rentrée littéraire, Les Reins et les Cœurs chez Léo Cher, et Brigitte Fanny Cohen, Les Pourquoi de la Santé, c'est toujours disponible chez Albin Michel. Et bien voilà, c'était le NRV première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite, pour plus de France Inter, avec cette semaine consacrée à Françoise Dolto. Demain, au programme du NRV, ce sera...
Tu veux savoir, mon nom?
C'est très viril.
C'est très viril, surtout son nom c'est Marlon Brando. De Marlon Brando à Tarantino, où va Hollywood? Je vous invite à poser dès à présent vos questions, interrogations, vos analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 pour passer à l'antenne demain. En live, Marion, ce sera demain.
Ce sera le pianiste David Kadouch qui va faire sa révolution.
Et le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit. On passe à la radio, Benoît.
Ah oui ?
Comme tout le monde.
Ah bon ?
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. La programmation et la préparation, c'est bien sûr Virginie Rouzic. Alors à tout de suite.
Rendez-vous.